Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Avec nous au téléphone et comme toutes les semaines, Françoise Verna de La Marseillaise pour évoquer avec elle les titres à la une de l'édition à paraître ce vendredi dans tous les bons kiosques. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence cette une avec du transport, les travaux d'extension de la ligne 1 du tramway qui permettra de rejoindre en 20 minutes la gare TGV Sud de France à partir de la gare Saint-Roch. La fin d'une aberration, vous dites.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu le lancement des travaux là au mois de novembre, et donc depuis Odysseum à Montpellier, cette extension de la ligne 1 du tramway va permettre d'ici 2 ans de se rendre en 20 minutes de la gare Saint-Roch, donc qui est au centre de Montpellier, à la gare TGV Sud de France, cette gare qui est qualifiée de gare à betterave et donc d'une aberration. Donc ça va permettre évidemment de mettre fin à cette aberration, mais aussi de développer tout un quartier avec de l'activité économique, mais aussi culturelle. Donc on rentre dans le détail et des travaux, ce qui va donc être réalisé, et puis aussi cette vocation d'un quartier économique qui sera ainsi irrigué par les transports, parce qu'évidemment, sans transport et sans bonne desserte, on ne peut pas développer un quartier, c'est le quartier Cambacérès. Voilà. Donc on revient largement sur ce dossier important qui s'intègre dans la politique de transport public de la métropole de Montpellier.
D'accord. Le dossier de la semaine se penche sur l'économie sociale et solidaire avec, parmi les exemples concrets, une coopérative étudiante au cœur de l'université Paul Valéry.
Oui, tout à fait. Alors, le mois de novembre est traditionnellement consacré à l'économie sociale et solidaire. En fait, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire se mettent en ordre de bataille pour bien faire connaître, cette façon de faire de l'économie qui ne met pas le profit comme finalité. Donc voilà, donc c'est de l'utilité, et de l'utilité, comme son nom l'indique, sociale et solidaire. Et donc, on consacre notre dossier de la semaine à l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir que dans la région Occitanie, 11,5% des emplois sont des emplois qui sont dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.
Oui.
Et puis, on s'est intéressé à des exemples concrets, comme cette coopérative étudiante à l'université Paul Valéry. En fait, c'est un véritable diplôme qui a été mis en place et qui permet aux étudiants de ce master en économie sociale et solidaire de créer, dès le début de leur scolarité, une véritable coopérative à partir d'un projet et de le mettre en œuvre.
D'accord.
Voilà, donc c'est intéressant parce qu'il y a aussi une professionnalisation concrète pour ces jeunes étudiants qui veulent embrasser ce secteur d'activité économique en plein développement.
Troisième sujet, les Pères Noël verts du Secours Populaire sont de retour pour que Noël n'oublie personne.
Et tout à fait. Donc les Pères Noël verts, bon évidemment, ils donnent un coup de main au Père Noël traditionnel, le Père Noël rouge, mais en fait plus sérieusement, le Secours Populaire français avec les Pères Noël verts met en œuvre une action de solidarité vraiment à grande échelle pour que Noël n'oublie personne, petits et grands.
D'accord.
C'est-à-dire que tout le monde peut participer en offrant que ce soit des colis alimentaires, des livres, des places de spectacle.
Oui.
Voilà, pour vraiment, en plus, cette année, bon, l'année dernière, c'était encore compliqué. Il y a eu la pandémie,
et
puis on a une aggravation des situations de précarité.
Oui.
Donc, les Pères Noël verts vont avoir beaucoup de travail et ils vont organiser aussi un grand concert. Et on va évoquer aussi ce grand concert. Évidemment, c'est les Rockeurs du Cœur qui vont être à la manœuvre. Ça sera le 16 décembre à Saint-Jean-de-Védas et on revient là-dessus dans les colonnes de la Marseillaise de vendredi.
À lire aussi dans la Marseillaise, les magistrats qui sont en colère et les pauvres, ça fait plutôt longtemps qu'ils sont en colère et ils décident de faire grève le 22 novembre prochain à Montpellier.
Oui, tout à fait. On a Sophie Benhamida qui est juge à Montpellier. Elle est déléguée du syndicat de la magistrature, donc un des deux syndicats avec l'USM qui appelle à une journée de grève le lundi 22 novembre. Mmh. C'est une mobilisation qui s'annonce vraiment importante, hein, intersyndicale, interprofessionnelle, puisqu'on a aussi, on aura aussi les fonctionnaires du greffe et les avocats oui. qui sont associés à cet événement. Et donc, elle nous a accordé un entretien, Sophie Benhamida, où elle explique les raisons de ce profond malaise, oui. Au-delà du manque de moyens. Il y a toute la communauté judiciaire qui est en grande souffrance. On peut s'interroger sur, par exemple, pourquoi les avocats. Mais les avocats, quand la justice patine, quand la justice a du mal à mener sa mission, eh bien, les clients des avocats en pâtissent aussi, et oui. avec la lenteur des dossiers notamment. Et donc, c'est un peu un entretien coup de poing pour mettre le doigt sur le profond malaise des magistrats en France. Mmh. Et à Montpellier, ils sont la Cour d'appel de Montpellier, ils sont énormément mobilisés sur ces enjeux.
Mmh. Et pour finir, côté culture, la Marseillaise met en avant l'exposition de photos métamorphoses qui se tient au pavillon populaire de Montpellier. C'est sur l'esplanade Charles de Gaulle.
Oui, tout à fait. Donc, on a vraiment... faut prendre le temps d'y aller parce qu'elle dure jusqu'en janvier. Hein, mmh. Mais on peut prendre le temps d'y aller et d'y retourner puisqu'en fait, c'est vraiment une exposition qui va mettre l'accent, elle a une dimension historique sur ce point de bascule qui en deux décennies, à partir des années 60, des années 60 et 80, ouais. On fait basculer l'approche de la photographie, mmh. La photographie artistique, la photographie sociale, ouais. dans une autre dimension. Et donc, c'est à la fois très pédagogique et très beau à voir. Et donc, on invite vraiment tous les auditeurs et les lecteurs de les auditeurs de Divergence et les lecteurs de la Marseillaise à aller au Pavillon Populaire, qui est le centre d'art photographique de Montpellier, et qui là fait vraiment œuvre de pédagogie et surtout de c'est une exposition marquante vraiment. Mmh. Hein, c'est pas une exposition lambda.
Ouais. Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres et on en parle tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et nous en parlions en introduction à la une de la Marseillaise. Françoise, vous parlez des transports et notamment les travaux d'extension de la ligne 1 du tram, le tramway bleu, qui permettra de rejoindre en 20 minutes la gare TGV Sud de France à partir de la gare Saint-Roch. Vous dites la fin d'une aberration et puis surtout la fin de partir à pied du millénaire oui. jusqu'à cette nouvelle gare.
Oui, tout à fait. Bah, alors là, c'est le cri du cœur poussé par Michael Delafosse, donc maire de Montpellier et président de la métropole de Montpellier aussi. Oui. Il dit dans deux ans, ça y est, c'est terminé, ça en sera fini de la galère des voyageurs et, oui. et de la mauvaise réputation de la gare TGV de Montpellier. Mmh. Alors, quand il a lancé, il a donné le coup d'envoi des travaux d'extension de la ligne 1 du tramway depuis Odysseum, ouais. Elle permettra cette extension d'ici la fin 2024 ou début 2025, ouais. de desservir, on pourrait dire enfin, la gare TGV Sud de France, surnommée la gare à betterave pour son oui. isolement oui. au milieu des champs.
Oui. Ou fantôme, on l'appelle aussi.
Comment ça?
Ou la gare fantôme, parce qu'on n'y voit pas beaucoup de voyageurs souvent.
Exactement, ça m'est arrivé de j'allais dire de m'y perdre. Donc, mais c'est vraiment du vécu et je pense que c'est pas pour raconter une anecdote personnelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose. Mmh. Donc elle a été mise en service en juillet 2018. Oui. Et bon, Michael Delafosse n'y va pas avec d'eau de la cuillère. Il dit qu'il répare une erreur du passé. Mmh. On ne pourra plus parler, et justement, du quartier fantôme à Cambacérès. Mmh. Alors, concrètement, pour poser ces 1300 mètres de rails qui permettra au tramway d'arriver sur le parvis de la gare TGV. On va quand même débourser 5 ans, c'est la métropole, mais c'est les habitants de la métropole via les impôts, hein, qui vont débourser 50 millions d'euros.
D'accord.
Donc il va y avoir au niveau du lycée Pierre Menin France, un pont de 36 mètres de long et 34 mètres de large.
C'est ça, parce qu'il faut, faut enjamber l'autoroute, c'est ça le problème.
Il faut enjamber l'autoroute 709, donc ça va être quand même aussi une prouesse technique. Hein. Voilà, ça va être vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Et donc, on va avoir une piste cyclable aussi, c'est ce que explique Julie Fraîche, hein, qui est donc la déléguée au transport à la métropole. Hein, et donc, il va y avoir une promenade piétonne qui sera aussi réalisée.
Mmh.
Donc, ce qui a d'intéressant aussi dans les explications, c'est que ça va devenir une véritable gare multimodale et interconnectée.
Ouais.
Elle sera à 20 petites minutes de Saint-Roch, qui est donc en centre-ville, hein, et qu'au-delà des 3800 voyageurs quotidiens, hein, c'est aussi tout un quartier économique qui va être irrigué. Alors Cambacérès va héberger notamment l'hôtel numérique French Tech, la Halle Nova, un hôtel, et il y aura aussi des bureaux à proximité du Mas des Brousses.
Mmh.
Alors la métropole annonce la création de 15 000 emplois, donc c'est quand même énorme. Il faudra bien voir si ce sont des emplois transférés, hein, parce que les entreprises auront l'opportunité d'avoir des nouveaux locaux neufs, spacieux. Donc il faut si ça aura des créations d'emplois ou des transferts d'emplois.
Mmh.
Mais en tout cas, il y aura de la vie dans ce quartier. Et il faut rappeler aussi que ça s'inscrit dans une politique globale, hein, parce qu'il va y avoir à la fin de l'année 2023 la gratuité totale pour tous les habitants de la métropole.
Et oui.
Et donc, il y aura aussi des lignes de bus tram début 2025.
Mmh.
Donc, il y aura aussi une nouvelle station qui va être créée sur la ligne 3 à Boisrargues pour desservir le futur stade de foot Louis-Nicolas. Voilà. Donc, et puis, in fine, on ne sait pas, mais peut-être qu'un jour, cette fameuse ligne 3, elle finira par arriver jusqu'à l'aéroport situé sur la commune de Moggio.
Mmh.
C'est quelque chose qu'on va suivre très attentivement, parce que ça répond à énormément de besoins, et aussi parallèlement, et c'est lié, ça va permettre d'améliorer les déplacements en commun et de réduire la part contrainte de l'utilisation de la voiture.
Et oui, parce que pour faire un petit rappel, quand on veut aller à cette nouvelle gare, on part du centre de Montpellier, on passe devant la gare Saint-Roch, on fait un petit peu de tramway, on va jusqu'au millénaire, et là, il fallait y aller à pied.
C'est carrément une véritable galère. Donc, c'est 2 ans de travaux. Pourquoi 2 ans ? Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a quand même des réalisations très importantes et très structurelles, mais c'est lancé.
Mmh. Allez, on passe au dossier de la semaine qui se penche sur l'économie sociale et solidaire. Et un exemple concret, une coopérative étudiante au cœur de l'université Paul Valéry.
Oui, tout à fait. Alors, le mois de novembre, c'est traditionnellement le mois de l'économie sociale et solidaire, dans la mesure où tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont fédérés dans les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qu'on résume au terme de ESS, mais je préfère le dire, employer le terme complet parce qu'il veut bien dire, les choses, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui n'ont pas le profit comme finalité, mais l'utilité sociale et la solidarité.
Mmh.
Et il faut savoir que c'est une part importante des emplois dans la région Occitanie. Hein, c'est 11,5% des emplois sont dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Et il y a aussi les futurs travailleurs ou les futurs chefs d'entreprise qui vont travailler dans ce secteur particulier de l'économie.
Oui.
Et donc, l'université Paul Valéry à Montpellier a créé il y a 2 ans une coopérative qui proposait des prestations d'enquête et d'études aux structures régionales de l'économie sociale et solidaire. Donc, ouais. Ça a vu le jour à Paul Valéry. Et donc, c'était aussi piloté par l'équipe enseignante et par des étudiants de master,
d'accord.
De master 2. Donc, c'est une innovation pédagogique qui fait partie complètement de leur cursus. Mais l'idée, ça a été de créer donc cette coopérative étudiante pour permettre aux jeunes qui préparent ce master 2 d'être vraiment en situation réelle. Mmh. Et donc, au lieu d'avoir un banal cours académique sur le fonctionnement d'une coopérative, hein, ce qu'on peut appeler une SCIC, hein, une société coopérative d'intérêt collectif,
oui.
Ces étudiants, ils se voient confier en début d'année les rênes d'une véritable coopérative. Hein. Alors, la structure, elle est baptisée Universic,
oui.
Et elle propose des prestations concrètes d'enquête et d'études à des entreprises locales de l'économie sociale et solidaire. Alors, Jean Cartelier, qui est enseignant et préside cette coopérative et étudiante de l'université Paul Valéry, il explique que c'est une coopérative un peu pâte à modeler. Chaque promotion apprend en faisant.
Ouais.
C'est de la pédagogie par l'action. C'est une initiation à l'entrepreneuriat collectif.
C'est fantastique.
Donc, ça a été créé en octobre 2020. Et c'est la deuxième coopérative étudiante de France.
D'accord.
Voilà, elle s'inspire de celle de Poitiers. Donc, ils ont pris modèle sur leur collègue de Poitiers. Et il a essaimé. On en compte aujourd'hui à peu près une dizaine. Donc, ça nous semblait important de mettre l'accent et de faire connaître concrètement les actions de l'économie sociale et solidaire et aussi de cette professionnalisation de ce secteur qui est aujourd'hui en première ligne pour répondre à la transition écologique, hein, mmh. Puisque comme il n'y a pas de finalité de profit ou de rentabilité, mais d'action de fonds social, ça correspond un peu à ce qu'il faudrait faire à une échelle beaucoup plus globale pour freiner une économie qui nous mène, une économie, on va dire, capitaliste,
oui.
Qui nous mène droit dans le mur. Hein.
Mmh.
Voilà. Donc, pour revenir à ce Master 2, ça représente quand même entre 30 et 40% de leur heure de cours. Hein.
D'accord.
Donc ça fait vraiment partie intégrante du cursus. Et donc, ce que nous dit encore le professeur, c'est ça montre aussi qu'on peut faire un entrepreneuriat différent de, entre guillemets, l'argent pour l'argent.
Mmh.
Voilà, donc ça répond bien... Ça répond bien aux objectifs de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce dossier, on donne plusieurs exemples. On part aussi du côté du Gard,
ouais.
Pour donner l'exemple d'une association, l'association FAIRE, F-A-I-R-E, qui va recevoir un prix au niveau national, qui va lui être décerné par le Crédit Coopératif, parce qu'elle mène depuis 20 ans des chantiers de réinsertion sur le patrimoine.
Ouais.
Et là, récemment, Elle a fait un chantier de réinsertion pour rénover des caravanes afin de permettre aux travailleurs saisonniers de trouver des logements corrects et pas chers pendant la saison estivale. Et ce sont des chantiers qui sont menés par des personnes qui sont en insertion professionnelle.
D'accord.
Donc voilà, il y a la formation avec cette coopérative réelle qui existe à Paul Valéry. Et il y a les actions aussi des associations et une kyrielle de d'événements qui sont organisés. On va renvoyer sur le site de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire d'Occitanie, où là, on a toutes les informations, toutes les dates par date jusqu'à la fin du mois, où on peut aller se rendre compte, toucher du doigt de ce qu'est l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Dans l'Hérault, dans le Gard et en Occitanie plus largement.
Oui, et puis outre l'économie sociale et solidaire, ça, je pense que ça peut permettre aussi aux étudiants de sortir un petit peu des bancs de la fac et d'être vraiment dans le concret et d'être dans une formation vraiment professionnalisante et en sort
c'est
du théorique.
C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. C'est vraiment un master professionnalisant, on peut le dire.
Et les fêtes approchent et les Pères Noël verts du Secours Populaire sont de retour et heureusement pour que Noël n'oublie personne.
Oui, tout à fait. Donc le Secours populaire français, donc il vient de lancer cette opération les Pères Noël verts. Alors cette année, évidemment, ils vont avoir encore plus de travail, puisque avec la hausse du coût de la vie, les actions du Secours populaire sont de plus en plus vitales. Mmh. Et donc pendant cette période de fête, les Pères Noël verts permettent de réaliser des collectes, mmh. mais pas simplement des collectes de jouets. Il y a aussi des dons financiers et aussi on peut très bien participer à cette grande initiative. Bon, en donnant des jouets, ça peut être un livre, ça peut être des colis alimentaires, ouais. ou encore des places de spectacle et de cinéma, comme nous l'explique Lucie Hens, qui est la directrice générale du Secours populaire dans l'Hérault. Chaque individu, peu importe son âge, doit pouvoir fêter Noël dans la dignité. Et, oui. Et ça, c'est un terme extrêmement important, puisque c'est vraiment le cœur de l'action du Secours populaire. Tout ce qui est humain est notre. Et donc, au moment de Noël, les Pères Noël verts sont là pour rappeler que la solidarité est vraiment essentielle. Mmh. Donc, l'objectif des Pères Noël verts, c'est de permettre à tous d'avoir un cadeau et de partager aussi un moment de chaleur. Donc, il va y avoir plusieurs initiatives qui vont être mises en place pour cette campagne de 2022 qui vient d'être lancée en ce mois de novembre. Ouais. Il y a des braderies solidaires qui vont se mettre en place pour que les parents puissent acheter à leurs enfants des jouets à des prix abordables. Hein. Ouais. Il va y avoir des collectes alimentaires et des stands aussi paquets cadeaux dans les centres commerciaux. Il faut être attentif quand on va faire ses courses pour aller aider et chacun peut faire un geste pour le Secours populaire. Ouais. Il faut savoir que dans l'Hérault, en 2020, il y avait 24 613 personnes qui ont été aidées mmh. par le Secours populaire et l'année 2022 n'est pas encore terminée et ils en sont déjà à 25 780 personnes qui sont accompagnées par le Secours populaire. Et ce que nous dit Lucienne, c'est qu'ils sont de plus en plus sollicités. Mmh. Alors, les Pères Noël verts, c'est aussi dans l'Hérault et c'est aussi dans le Gard, hein, puisque nous avons Myriam Fabre, qui est la secrétaire générale de l'association du Secours populaire français dans le Gard, qui, eux, ils sont à la recherche vraiment de bénévoles, dont des chauffeurs, et elle dit que tout le monde peut agir à son niveau pour donner la main et aider le Secours populaire. Et puis, une date à retenir, hein, il va y avoir un grand concert, c'est les Rockeurs ont du cœur, qui, comme chaque année, organise donc un événement musical, hein, où l'entrée, c'est l'équivalent d'un jouet. Mmh. Et l'édition 2022 aura lieu donc à Saint-Jean-de-Védas. Ça sera le 16 décembre. Donc nous donnons toutes ces informations dans la Marseillaise. On peut d'ores et déjà aller sur le site secourspopulaire.fr où il y a toutes les activités proposées par l'association dans le cadre des Pères Noël verts. Et je rajouterai que les Pères Noël verts fait intervenir et agir les enfants.
Oui.
Énormément d'enfants avec Copains du Monde, qui est notre grand programme du Secours populaire, où oui. on voit les petits lutins verts qui viennent collecter pour que Noël, comme tu vous l'avais dit, n'oublie personne.
Et chers auditeurs, on vous encourage vraiment à les aider. Eux aussi ont visiblement besoin d'aide, les magistrats, parce qu'ils sont en colère et feront grève pour montrer cette colère le 22 novembre prochain à Montpellier.
Oui, alors ça sera une manifestation qui a une dimension nationale, mais à Montpellier, ils vont être extrêmement mobilisés. Mmh. Donc nous avons Sophie Benhamida, qui est juge à Montpellier et qui est déléguée du syndicat de la magistrature, qui nous a accordé un entretien, un long entretien où elle explique les raisons de ce profond malaise. Alors il faut savoir que c'est pas un malaise qui date d'aujourd'hui.
Ah hein. Oui, depuis très longtemps.
Oui. Alors, le plus récent, c'est il y a un an, il y a eu l'apparition d'une tribune qui a dénoncé les conditions de travail. Mmh. Et les deux principaux syndicats de magistrats, l'USM et donc le syndicat de la magistrature, appellent donc à cette journée de grève lundi 22 novembre. Alors, ça sera donc une mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle, oui. puisqu'il y a aussi les fonctionnaires de greffe et les avocats qui sont associés à cette manifestation. Les audiences à Montpellier vont être renvoyées. et un rassemblement va être organisé. Donc on a demandé à Sophie Benhamida où ils en étaient aujourd'hui.
Oui.
Et elle nous explique que la situation ne s'est pas améliorée en dépit des annonces faites par le garde des Sceaux, qui se félicite, lui, qui communique sur un budget des moyens historiques pour le ministère de la Justice, mais elle nous explique bien que c'est un budget qui concerne beaucoup l'administration pénitentiaire et moins les services judiciaires, c'est-à-dire moins les juridictions. Donc, et elle dit que les recrutements qui sont annoncés sur les 2 ans qui viennent, ils seront très insuffisants pour permettre un fonctionnement normal de l'institution judiciaire. Donc vraiment, ça intéresse tous les citoyens. Et donc, on en arrive cette difficulté et ce manque récurrent de moyens humains fait que il y a une souffrance au travail qui est vraiment vraiment très forte. Il cite en exemple la mort récente d'une juge à Nanterre,
qui a fait une crise cardiaque.
Marie Truchet, elle avait 44 ans, elle s'est effondrée en pleine audience, foudroyée par une crise cardiaque, et la magistrate qui s'exprime dans nos colonnes s'interroge et nous lance combien de décès, de dépressions, de maladies va-t-on encore supporter ?
Oui, et puis des gens qui jettent l'éponge aussi.
Il y a des gens qui jettent l'éponge. C'est des métiers qui demandent des formations, on le sait, extrêmement longues, parce qu'on a affaire à la justice, et donc il faut des professionnels bien formés, et donc c'est des vocations souvent, beaucoup d'heures beaucoup d'années d'études et beaucoup d'heures de travail après. Et donc concrètement, sur la cour d'appel de Montpellier, donc il y a la juridiction de l'Hérault, les médecins du travail ont été alertés sur un certain nombre de cas. Et ce médecin du travail dit que c'est très significatif. On a quand même là une vraie souffrance au travail, mais une souffrance qui n'est pas que psychologique, même si la psychologie, c'est une souffrance très très forte. Il y a des accidents vasculaires cérébraux, il y a des pathologies neurologiques, il y a l'extrême fatigue, la perte de sens, la violence dans le management. Bon, elle dresse quand même un tableau qui est très très sombre et qui justifie cette grande mobilisation des magistrats ce 22 novembre. Il y a aussi la précarité dans le monde judiciaire, avec des personnes qui sont au greffe sans avoir forcément de formation. Donc on voit toute une réaction en chaîne. Et pourquoi on ne peut être étonné que des avocats participent aussi à cette journée de mobilisation? Mais non, parce que l'avocat il va être aussi tributaire de cette lenteur de la justice et des dysfonctionnements de la justice. Donc Sophie Benhamida nous ouvre carrément, son cœur de magistrate, et elle nous fait vraiment toucher du doigt une réalité qu'on ne veut pas forcément voir au plus haut niveau de l'État, en se gargarisant de budgets très forts, mais on voit bien qu'il y a une orientation très pénitentiaire, et donc il y a un choix qui est fait, un choix de la répression, et pas forcément celui de faire fonctionner mieux la justice en France.
En tout cas, moi je pense qu'il faut les soutenir, parce que la justice, on est tous concernés. On pourrait faire l'analogie bien sûr avec l'hôpital.
C'est complètement ça. C'est pour ça que c'est un problème vraiment de société, et un problème, on peut être tous un jour, on a tous un jour à faire avec la justice, pour différentes raisons, dans la vie quotidienne, ne serait-ce que, je vais dire, un truc moins grave, mais ça peut être un divorce, et c'est de plus en plus long, mais on pense aussi aux violences intrafamiliales, donc on pourrait dérouler le fil, tous ces dysfonctionnements qui mettent aussi en danger les justiciables, et notamment les plus fragiles.
Allez, plus léger, Françoise. On finit avec de la culture. Il ne faut pas passer à côté de l'exposition de photos Métamorphose. Ça, c'est ce que dit la Marseillaise. Et ça se tient au pavillon populaire que nous, on adore chez Divergence FM. C'est sur l'Esplanade à Montpellier.
Oui, tout à fait. Alors, l'exposition Métamorphose, c'est une exposition de d'art photographique, hein, puisque ça se passe au pavillon populaire, qui est l'espace d'art photographique de la ville de Montpellier. Et donc, le commissariat d'exposition a été confié à Michel Poivert, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mmh. Et en fait, cette exposition, elle fait le bilan de deux décennies qui ont changé la photographie en France de manière définitive, nous explique Michel Poivert. Donc entre la fin des années 1960 et celle des années 1980, donc en fait on peut dire que historiquement, c'est symboliquement entre mai 68 et la chute du mur de Berlin, la photographie ne ressemble déjà plus à celle dite humaniste entre guillemets, que l'on voyait jusqu'alors dans notre pays. Donc il va y avoir à la fois, elle va être à la fois plus subjective et plus intellectuelle. Et puis on voit l'entrée de la photographie dans l'art contemporain, avec des formats qui explosent, la couleur qui s'impose, l'esthétique qui devient la préoccupation première. Hein. Et donc il y a 240 œuvres qui sont exposées, qui sont le fruit du travail de 73 photographes. Et donc il y a une dimension nationale incontestable à cette exposition. Le pavillon populaire a bénéficié de prêts, notamment du Centre Pompidou, de la Maison européenne de la photographie. Donc, on a par exemple, des sujets, on va dire, graves, mais des sujets de société de l'époque. Il y a les années SIDA, on voit le visage posé sur le sol d'Hervé Guibert, qui photographie son regard plein de mélancolie. Il y a cet autoportrait du jeune écrivain qui symbolise ces années SIDA. Donc c'est vraiment, et on l'a tous en tête dans l'imaginaire collectif, hein. On a aussi dans un autre registre Bernard Plossu qui prend sa vie comme sujet photographique, hein, avec beaucoup de poésie. Et on a aussi dans la section Le corps en liberté, Florence Chevalier qui travaille son anatomie nue comme le ferait un sculpteur. Donc on a aussi des nouveaux visages de la société française avec la crise, hein, les paysages. C'est à la fois de l'évasion, de l'intimiste, de la dimension sociale et des mondes oniriques, hein, comme il y a aussi Bernard Faucon et ses chambres d'amour. Donc c'est vraiment un voyage dans l'histoire de la photographie, on va dire, contemporaine, et ce point de bascule historique pour la photographie en France. Et il faut vraiment y aller, y courir et la déguster, et même y retourner, puisqu'elle est visible jusqu'au 15 janvier 2023.
D'accord.
Donc c'est vraiment aussi un beau cadeau pour ces fêtes de fin d'année.
Et puis de voyage, on en a bien besoin en ce moment. Est-ce que c'est gratuit, Françoise, comme la plupart des expositions au pavillon populaire?
Vous me posez une colle, nous allons tout de suite... Oui, c'est complètement gratuit. Oui, ça y est, je l'ai retrouvé.
Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas y aller.
Ah voilà, c'est l'entrée est libre, donc c'est fantastique. C'est vraiment à portée de tous, et on espère aussi que les plus jeunes et que le maximum de Montpelliérains, et au-delà de Montpellier, parce qu'elle a une dimension nationale, et donc on peut aller à Montpellier très facilement. On a parlé de la gare sud de France, mais c'est quand même une ville qui est très bien desservie et qui est très agréable, et donc il faut y aller pour plein de choses, mais il faut y aller pour cette exposition au pavillon populaire.
Absolument. Merci beaucoup, Françoise, pour
Merci
avoir évoqué
vous,
avec nous les titres. Et puis on se donne évidemment rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Et puis on rappelle que tous ces sujets sont à lire dans la Marseillaise, à paraître ce vendredi. Merci beaucoup, Françoise.
Merci Bruno, merci à tous.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.